Bonjour à tous ou bonjour, bonsoir, selon le temps que vous avez écouté son message. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Avant de commencer, on va prier pour que le Seigneur puisse vraiment prendre la place qui lui revient au milieu de nous et que ce soit lui qui conduit cette méditation. Amen. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta grâce et ta bonté. Nous voulons, Seigneur, t'inviter. Que tu viennes, que tu prennes le gouvernail de cette méditation, que tu nous parles, Seigneur, que tu nous enseignes toi-même, que tout ce que nous aurons à entendre soit des choses qui viennent de toi. Nous ne voulons pas, Seigneur, marcher selon notre volonté, mais nous voulons marcher selon la tienne. Et c'est pour cela que nous avons besoin de toi, de ton esprit, afin que nous puissions comprendre ce que tu as préparé pour nous aujourd'hui. Nous te bénissons, nous te rendons grâce et nous te disons merci pour cette parole. Nous prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés, je vous salue encore une fois au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. C'est une grande joie pour moi d'apporter la méditation d'aujourd'hui. C'est aussi un privilège que nous avons en tant qu'enfants de Dieu de partager cette parole, de parler de cette parole, de la méditer, de la comprendre. C'est une chose que nous avons comme privilège dans le sens que ce n'est pas notre intelligence qui va essayer de la comprendre, mais c'est vraiment le Saint-Esprit qui va nous guider, qui va nous inspirer pour pouvoir avoir ce que le Seigneur a prévu pour nous aujourd'hui. C'est pour cela que c'est une joie, une immense joie de le savoir au milieu de nous, parmi nous, parce que c'est ce qu'il a dit dans sa parole. Et sa parole nous dit aussi que ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Donc alors, nous sommes très convaincus qu'il est présent ce soir ou ce matin au milieu de son peuple que nous sommes. Amen. Sans tarder, je vais essayer d'aller vite. Le temps passe. Le thème que le Seigneur m'avait mis à cœur aujourd'hui, c'est vraiment la fondation. La fondation, donc, c'est dans le sens littéral et le sens plus poussé de ce mot-là. La fondation, on parle de la construction. La construction, tout le monde sait de quoi il s'agit. Donc, c'est quand on veut construire une maison ou un immeuble selon la grandeur. Mais dans tous les cas, dès qu'on veut construire, on doit commencer par la fondation. Cette fondation, c'est primordial dans le sens que c'est sans fondation, la maison ne tiendra pas longtemps. Ici, dans les pays développés, ils vont creuser vraiment profond pour commencer cette fondation. Il est vrai, dans certains pays ou certaines places, manque de matériel ou de connaissances, les gens vont construire au même le sol. Et ça, c'est des choses qui ne durent pas longtemps. Ils vont essayer de mettre des piliers, des gros troncs d'arbres qui feront objet de piliers. Mais ça, quand on y pense ou on observe bien, ce sont des maisons qui ne durent pas longtemps, qui ne restent pas longtemps. Donc, du coup, aujourd'hui, on va voir comment on peut fortifier notre maison, comment on peut fortifier notre vie en Christ. En tant qu'enfant de Dieu, on a besoin d'une fondation solide pour pouvoir avancer avec le Seigneur, pour pouvoir marcher avec lui. Parce que ce n'est pas facile, ce n'est pas évident pour un enfant de Dieu de rester. C'est une chose de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, et c'est une autre chose de garder le cap, c'est-à-dire de continuer à marcher sur ce chemin. C'est un chemin plein de bûches, plein d'obstacles, plein de combats. Donc, il faut vraiment être solidifié, il faut avoir cette solidité dans le Seigneur. Et justement, c'est pour cela qu'on va voir comment on peut solidifier notre vie en Christ, comment avoir cette fondation. Si on bâtit notre foi, notre vie sur une fondation qui n'est pas correcte, qui ne dure pas longtemps, c'est sûr que notre foi ne va pas durer longtemps non plus. On voit souvent des gens qui ont accepté le Seigneur, qui servaient le Seigneur avec courage, avec zèle, mais à un moment donné, ça, ils sont à terre et ils laissent tomber et ils retournent dans leur vie d'avant. C'est ça que on va éviter. On veut éviter aujourd'hui. On va voir comment on tombe pas dans ce piège là de l'ennemi, parce que je sais que l'ennemi va chercher toujours, toujours, encore et encore à nous ramener en arrière, là où nous étions avant, sous son joug. Maintenant que le Seigneur nous a libérés de lui, l'ennemi va vouloir nous ramener chez lui. Donc, raison pour laquelle on a besoin d'être solidifié, on a besoin de construire notre foi, de construire notre vie chrétienne sur le roc qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, je vais commencer par le début. C'est une parole qui se trouve dans Néhémie, chapitre 1. Je ne l'ai pas mise sur la toile, mais je vais la lire. Donc, dans Néhémie, chapitre 1, Néhémie était déjà déporté. Il était déjà en Babylonie. Et il demandait des nouvelles de Jérusalem. Et puis, on lui dit que la ville est en ruine. Ce n'est pas le seul qui a été déporté. Il y avait pas mal d'autres juifs qui étaient déportés. Et il était vraiment triste d'entendre ces nouvelles et en considérant en même temps comment était Jérusalem avant que le Seigneur, que l'Éternel les disperse. Si je peux faire un petit résumé de l'histoire en question, c'est que le peuple d'Israël a désobéi à Dieu. Et Dieu, pour les punir, il les a dispersés. Il a utilisé des rois qui étaient autour d'eux pour les attaquer. Et à la fin, il y a pas mal qui ont été déportés, qui ont été amenés en dehors de Jérusalem. Donc, Néhémie était parmi ceux qui ont été déportés. Et du coup, il s'enquérissait des nouvelles de Jérusalem et puis de ce qui s'est passé, de ce qui s'est passé, de savoir comment les choses étaient à ce moment. Et les nouvelles qu'il a reçues, ce n'étaient pas de bonnes nouvelles du tout. On lui racontait que Jérusalem était en ruine et pas mal de ses compatriotes ou ses confrères ont été déportés aussi. Et ça l'a tellement touché, ça l'a tellement, je dirais même anéanti d'entendre cela, parce que à l'époque, là, c'est Jérusalem, c'était quand même une ville très puissante et très reconnue, qui a été quand même une ville florissante. Mais à un moment donné, donc, les gens ont commencé à mettre de côté ou écarter l'Éternel, et puis l'Éternel les a châtiés. Donc, c'était dans ce contexte que Néhémie a demandé des nouvelles de Jérusalem. Et quand il a entendu cela, il a eu quelque chose une révélation, en fait. Une révélation, et il a commencé à prier. Il a commencé à prier, il n'a pas prié pour lui, il a prié pour tout l'Israël. Il a prié pour tout l'Israël parce que c'est tout l'Israël qui avait péché. En fait, j'imagine que ce n'est pas tout le monde. Il y avait quand même certaines personnes, mais le Seigneur a donné une punition pour tout le monde. Donc, c'est pour cela que Néhémie a bien compris la chose et il a commencé à prier, à intercéder pour tout l'Israël. Donc, on va lire dans Néhémie chapitre 1. Versets 6 à 7, qui nous dit: Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière de ton serviteur, t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon père, nous avons péché contre toi. Donc, Néhémie n'a pas prié pour lui, n'a pas demandé seulement pour lui le pardon à Dieu, mais il a prié, il a demandé, il a intercédé pour tout le monde, tout l'Israël. Et quand on regarde attentivement, il dit à la fin, car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Car moi et la maison de mon père. Cette prière est très importante parce que, comme je disais, il priait pour tout Israël. Mais quand on parle de moi et la maison de mon père, c'est notre origine, c'est notre point de départ. Et en ce qui nous concerne de nos jours, ce n'est pas seulement la maison, ma maison et la maison de mon père. C'est la maison aussi de mon grand-père. C'est la maison de mon arrière-grand-père, ainsi de suite. Nos arrière-grands-pères, nos aïeux ont péché contre le Seigneur. Nos pères ont péché contre le Seigneur. Nos parents, nos grands-parents, ils ont péché contre le Seigneur. Et nous, nous sommes impliqués là-dedans. Automatiquement, nous sommes impliqués là-dedans. Alors, quand nous venons vers le Seigneur, quand nous recevons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, la plupart du temps, on oublie cela. On oublie ça, on commence là où on donne notre vie à Dieu, à Christ, et on veut démarrer. Mais non, ça commence pas par là. Il faut aller d'abord creuser en profondeur pour fonder pour poser notre fondation. Parce que si on commence par là, c'est à ras le sol, ça va pas durer longtemps. Il faut d'abord creuser, creuser, creuser vraiment profond pour aller poser notre fondation de cette vie nouvelle. Parce que si on ne le fait pas, ça ne va pas marcher. Il y aura toujours des choses, il y aura toujours des problèmes qui découlent de ce que nos pères ont fait, ce que nos grands-pères ont fait. C'est pour cela qu'il faut creuser profond. Il faut demander à Dieu de nous révéler qu'est-ce qui a été fait dans notre famille, qu'est-ce qui a fait quoi. Remonter, si vous voulez, à n'importe quelle génération, 1000 générations, si vous voulez, si vous demandez au Saint-Esprit de vous montrer qu'est-ce qui s'est passé, il va vous le montrer. Et il faut briser ces choses. Il ne faut pas commencer là et puis dire, oui, c'est fini, c'est bon, moi j'ai déjà donné ça ne me regarde plus. Non, ça continue à te regarder parce qu'il y a des choses qui ont été faites en ton nom. Il y a des choses que les gens ont faites. En ton nom. Quand on parle de la maison de mon père, c'est tout le monde qui est impliqué. Il n'y a personne qui va être dit, qui va être mis à part parce que la maison de mon père, c'est tout le monde. C'est le père, la mère, les enfants, parce que le père, c'est le représentant de la famille. Donc, tout ce que le père fait, ça affecte toute la famille. Ça affecte tout le monde sans exception. Même le bétail, même tout ce qui appartient à cette famille, est affecté quand c'est le père qui fait ces choses. Donc, vous comprendrez que génération après génération après génération, il y a des choses qui se sont passées. On ne peut pas venir construire là-dessus. Il faut d'abord briser cela. Il faut d'abord enlever cela pour poser une bonne fondation, une vraie fondation qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est ça la stratégie. Néhémie a bien compris, il a eu cette révélation, il a commencé à prier, à intercéder, à demander pardon à Dieu pour non seulement lui seulement, mais pour la maison de son père et tout le pays en entier. Des fois, il y a des choses qui nous affectent, qui se sont passées. On n'a rien à voir avec ça, mais disons qu'un président fait de la sorcellerie et il fait ces choses et puis il implique tout le pays. Un président, il coiffe tout le pays. Donc, tout ce qu'il fait, ça nous affecte sans faute. Même quand il fait un bon travail en tant que président, tout découle et puis, tout va découler et ça va nous arriver. Et puis, le pays va aller de l'avant, le pays va se développer. Quand il ne fait pas son travail, pareil. Le pays va tomber et toute la population va être touchée. Et c'est ça, c'est la même chose. Néhémie a demandé pardon pour tout Israël parce que tout le pays entier avait péché. Et comme Dieu avait puni tout le pays, Néhémie aussi était impliqué, malgré que lui, c'était quelqu'un qui connaissait le Seigneur, qui craignait le Seigneur. C'est pour cela que lui, il avait compris, il a commencé à prier pour tout le monde, pour le pays, pour la maison de son père, parce que tout ce qui s'était passé, ça l'impliquait personnellement. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on doit faire d'abord. On doit briser, on doit enlever tout ce qui n'était pas bon ou tout ce qui n'est pas bon pour justement remplacer avec des bonnes fondations, la bonne et la vraie fondation qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Et on ne peut pas faire les deux à la fois. Tant que les choses du passé ne sont pas effacées, les choses nouvelles vont venir, mais ça va pas être facile. C'est là où les gens rencontrent beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés et certains, d'ailleurs, finissent par abandonner, finissent par se décourager et retourner là où ils étaient avant. Si on lit dans Actes 16, chapitre 16, verset 20, 26, on va lire de 26 à 30, disons, ou plus, dépendamment. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Ça, c'est le verset 26. Ça parle de l'histoire de Paul et Silas qui étaient en prison. À un moment donné, ils étaient, malgré qu'ils étaient en prison, ils étaient en train de louer le Seigneur, chanter. Et à un moment donné, il y a eu quelque chose qui s'est passé, un tremblement, un grand tremblement qui a fait en sorte que même les fondements de la prison furent ébranlés. Quand on parle d'ébranlés, c'est pas seulement comme les tremblements de terre qu'on a l'habitude d'entendre ou de voir. C'est vraiment quelque chose qui sort Tout à l'heure, on parlait de l'extraordinaire, qui sort de l'extraordinaire, qui ébranle les fondements. C'est-à-dire que les fondements même ont été détruits. Ils ont été détruits. Donc, la prison a été détruite, à tel point que tout ce qui était là, malgré les chaînes et malgré les... Je ne sais pas comment à l'époque on les détenait, mais tout ça a été brisé à cause de ce tremblement, à cause de ce grand vacarme. Ça a été brisé et tout le monde a été libéré. Là, on va insister sur le mot fondement. C'est-à-dire que c'est venu de l'intérieur même. Ce n'est pas quelque chose qui est venu de l'extérieur. C'est quelque chose qui est venu de l'intérieur, en profondeur, qui est venu changer des choses, qui est venu briser les chaînes. C'est-à-dire que quand il y a ce changement, quand il y a ce tremblement, quand il y a ce mouvement des choses, il y a des changements. C'est là où il y a des changements. Donc, quand on creuse en profondeur, quand on cherche, c'est là où des choses qui étaient enfouies, des choses qu'on ne connaissait même pas, des choses qu'on n'était même pas au courant, qui se sont passées dans nos familles, qui ont été faites, des pratiques qui ont été faites, qui ont des choses, des sacrifices, des alliances, les contrats qui ont été signés, que nous ne connaissions pas, vont être mis à nu, voilà, mis à nu. Ça va être dévoilé. Ça va être dévoilé. Il y aura plus quoi que ce soit qui soit caché. C'est là où on obtient la vraie délivrance. La vraie délivrance, c'est quand on brise, c'est quand on enlève, c'est quand on efface tout ce qui était là avant. Tout ce qui était là avant, tout ce qui nous retenait, toutes les chaînes qui nous enchaînaient, tout ce que l'ennemi avait fait avant, tout ce que nos pères ont fait, tout ce que le pays a fait. Tant que ce tremblement n'est pas encore arrivé, il n'y aura pas grand-chose qui va bouger. Même si on a reçu le Seigneur Jésus-Christ, il y aura toujours quelque chose qui nous bloque. Il y aura toujours des embûches. L'ennemi aura le droit légal d'agir dans nos vies. Mais tant que ces choses, après que ces choses sont effacées, sont brisées, ces chaînes sont brisées, ce tremblement fort est venu briser, ébranler les chaînes, ébranler les autels qui nous réclament, ébranler les contrats qui ont été signés. Tout cela, quand ce sera fini, c'est là où nous serons libres. Mais avant cela, avant ce passage de ce tremblement, avant cet événement, bien-aimé, on a beau avoir le Christ comme notre fondement. Parce que c'est au-dessus, c'est à ras le sol. Ce n'est pas ancré dans les profondeurs. Ça va continuer à nous bloquer. Ça va continuer parce que ce contrat-là qui a été signé par je ne sais pas quel arrière-arrière-grand-père, si personne ne le brise, il aura toujours, l'ennemi aura toujours ce droit légal de venir nous embêter, de venir réclamer. Alors, bien aimé, nous devons commencer par creuser. Creuser, creuser, creuser profondément. Et comment on creuse? Par la prière. On demande à Dieu, on demande au Saint-Esprit de nous révéler tout ce qui nous bloque, tout ce qui a été fait, tout ce qui n'est pas de Dieu dans nos vies. Notre origine, en d'autres mots. Nous demandons qui suis-je? En fait, c'est ça la question. Qui suis-je? Je viens d'où? Je suis qui devant toi, devant ta face? Comment tu me vois? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut enlever? Qu'est-ce que je dois débarrasser dans ma vie? Qu'est-ce que je dois enlever? Qu'est-ce que je dois briser? Parce qu'aussi longtemps que ces choses ne sont pas enlevées, ne sont pas brisées, ça va toujours continuer à nous bloquer. Et quand on veut vraiment avancer, quand on veut vraiment avoir cette délivrance, il faut la chercher, il faut aller chercher, il faut demander à Dieu de nous révéler ces choses. Et puis, quand ces chaînes ont tombé, je reviens sur Paul et Silas. Le gardien de prison, lui, il dormait et puis il a été secoué aussi, il a été ébranlé. Il était en panique. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à paniquer, il a pris peur et il voulait se suicider parce qu'il craignait ce que les Romains allaient faire. Il allait le tuer. Mais Paul a dit non. Et quand ces chaînes se sont brisées, Paul et Silas ne se sont pas sauvés. Ils sont restés là à évangéliser, à parler de la parole de Dieu. Ils sont restés là, le geôlier pensait qu'ils se sont sauvés. Mais non, ils étaient là en train d'évangéliser, ils étaient là en train de parler. Et justement, ça, c'est les conséquences ou sinon le résultat d'une bonne délivrance. Parce que quand on est délivré, on a envie de raconter, on a la force. On a l'onction, on a la puissance, parce qu'on a été débarrassé de tout ce qui nous bloquait. Les dons que le Seigneur nous a donnés, ça va se déployer, parce qu'avant, ils ne pouvaient pas se déployer. Au contraire, c'est l'ennemi qui volait cela pour aller utiliser ailleurs dans des choses inimaginables. Nos dons, si on a un don d'intercession. On intercède pour quelqu'un et quelqu'un est guéri. On a un don de vision, disons. Ils vont prendre ça, aller utiliser ailleurs. C'est ça ce que l'ennemi fait avec tout ce que le Seigneur a déposé à nous. Quand nous ne sommes pas libérés, quand nous sommes encore sous le joug de l'ennemi, c'est comme ça que l'ennemi opère. C'est pour cela d'ailleurs qu'il ne veut pas que nous soyons libres, libérés, parce que tout ce que le Seigneur a préparé, prévu pour nous, ça lui appartient, parce que nous lui appartenons. Alors tout ce qui nous appartient lui appartient. Il se sert comme il veut. C'est pour cela que l'ennemi ne veut pas que nous soyons libérés. Et ce geôlier, il pensait qu'ils sont partis, mais non, ils étaient encore là, en train d'évangéliser, en train de partager la parole de Dieu. Et quand on continue l'histoire, on verra que lui-même, il a fini par croire, à recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Il s'est fait baptiser avec toute sa maison, avec toute sa maison, avec toute sa famille. Donc, c'est ça vraiment quand il y a quelque chose qui se passe, il y a un truc, pas un truc, mais quand cet événement se produit, il y a la délivrance, il y a la restauration, et c'est incroyable ce qu'on peut vivre après, la vie qu'on va avoir après, ça n'a rien à voir avec la vie d'avant. Avec la vie d'avant, où on était sous l'emprise, on était sous le joug de l'ennemi. Mais quand le Seigneur nous. Quand cet événement se produit dans nos vies, il y a des changements. Si on se réfère sur la parole de Dieu qui est en Jean 19, verset 30, c'est quand le Seigneur Jésus-Christ était à la croix et. Avant de rendre l'âme, il a dit, tout est accompli. Mais qu'est-ce qui s'est accompli d'abord? C'est sa mission. Il avait terminé sa mission. Tout ce que le Père lui avait demandé de faire, il avait fait à la perfection. il avait terminé sa mission. Et en Matthieu 27, 51, qui nous dit, et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre tremble, les rochers se fendirent. Donc vous imaginez cette puissance. C'est cette puissance qui vient briser tout ce qui nous retenait avant. Cette puissance qui a fendu les rochers. Quand même, un rocher, c'est quelque chose de dur, d'extraordinaire. Ah, si on cherche à comprendre la matière. Mais cette puissance qui est libérée par le Seigneur, par notre Père, arrive quand même à fendre même le rocher le plus dur en deux. Le voile s'est déchiré de haut en bas. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que cette barrière qui était là avant, qui empêchait les gens d'avoir accès au lieu au lieu dans le Saint des Saints, voilà. Donc cette barrière qui empêchait les gens d'accéder au Saint des Saints, le lieu où le sacrificateur allait faire des sacrifices, il était le seul à y accéder. Et là même, il prenait toute une année pour se préparer. Parce que des fois, si, d'après l'histoire, on attachait une corde à un pied, comme ça, si jamais il entre et qu'il n'était pas bien sanctifié, il pouvait mourir. Donc, comment on allait le récupérer? On tirait la corde qui était sur son pied. Donc, quand le voile s'est déchiré, il y a eu cette barrière qui était là, qui a été enlevée. Maintenant, on peut accéder à Dieu le Père, en tout temps. On a ce privilège de pouvoir accéder à notre Père céleste en tout temps. On a eu cette... Ça s'est produit justement quand ce voile s'est déchiré en deux. Quand il y a eu tremblement, c'est là où ce voile s'est déchiré en deux. Et on a eu, encore une fois, quelque chose qui s'est passé. Ce privilège de nous approcher de lui, nous-mêmes, sans intermédiaire. Il y a des chaînes qui se brisent et après, il y a cet accès qui nous est donné pour pouvoir parler avec lui, pour pouvoir communier avec lui. Ça, c'est vraiment une grâce que nous avons de pouvoir avoir cet accès à notre Père céleste. C'est pas donné à tout le monde. C'est vraiment quelque chose que le Seigneur a réservé à ses enfants. Donc, c'est pour cela que nous devons justement veiller à ce que nous puissions avoir cet accès constamment. Oui, nous avons le chemin qui est notre Seigneur Jésus-Christ par lequel nous devons passer. Mais tant que ces choses ne sont pas enlevées, tant que ces choses qui nous bloquent, qui nous bloquent, qui sont toujours en place, sont toujours là, on ne va pas aller loin. On ne va pas aller loin et c'est là où l'ennemi va venir te dire, bah, voilà, donc tu as accepté le Seigneur, ta vie est maintenant So-so, ah, t'étais mieux quand tu étais avec moi. C'est pour cela que les gens retournent en arrière. C'est pour ça que les gens tombent et ne se relèvent plus jamais. Parce qu'il y a eu des choses qui étaient là et qui n'ont pas été réglées avant ou après avoir accepté le Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est ça la fondation. La vraie fondation, c'est le Seigneur Jésus-Christ, mais il faut préparer le terrain. Il faut préparer. Si on veut faire, on veut construire notre maison, on va pas aller dans une forêt, on va pas aller sur une montagne. On cherche d'abord un bon terrain, on l'aménage comme il faut. Si c'est là où il y avait une forêt, on doit d'abord couper les arbres, on doit d'abord enlever tout ce qui n'est pas utile. On appelle ça viabiliser le terrain. Donc, c'est-à-dire qu'on enlève tout ce qui n'est pas nécessaire, tout ce qui est flou, tout ce qui nuirait à cette construction. On déracine les arbres qui étaient là. On ne coupe pas au-dessus, on déracine carrément pour que toutes les racines soient enlevées. Donc, c'est ça ce que j'étais en train de dire. Donc, si on veut construire une maison quelque part, et là où il y a un arbre, on ne coupe pas l'arbre au-dessus, parce que sinon il va repousser. Il faut déraciner. Avec les racines, comme ça, l'arbre est terminé, quoi. Il va plus repousser, il va sécher. Et on pourra même l'utiliser pour faire du feu. Mais tant que l'arbre est coupé au-dessus, tant qu'on n'a pas creusé pour enlever les racines, tant qu'il n'y a pas eu cet événement, ce tremblement qui ébranle les fondations, qui ébranle les rochers, non. On va construire, mais ça ne va pas aller loin. Ça peut durer quelques temps, mais ça va finir par tomber. C'est d'ailleurs ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Mais avant d'arriver à ce que le Seigneur nous a dit, j'aimerais d'abord nous partager la parole de Dieu qui est dans Psaume 118, verset 22, qui nous dit: La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissent est devenue la principale de l'angle. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que après avoir préparé le terrain, après avoir creusé profond pour faire notre fondation, on bâtit la maison, on bâtit la vie en Christ. Et c'est Christ qui sera maintenant notre rocher. C'est lui qui sera notre support. C'est lui qui sera tout pour nous. On ne peut pas faire autrement. On ne peut pas passer par un autre chemin. C'est absolument le seul qui soit par lequel on doit passer, par lequel on doit marcher vers notre Père céleste. Il a dit, je suis le chemin. Si on ne suit pas ce chemin, on va nulle part en fait. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va se perdre, ça c'est sûr. Et on se retrouvera encore une fois au point de départ chez l'ennemi là où nous étions avant. Il y a des gens qui pensent que ils peuvent faire les deux. Il n'y a pas, on ne peut pas faire, même le Seigneur a dit, on ne peut pas servir deux maîtres. On ne peut pas servir deux maîtres. C'est sûr qu'on va aimer l'un et puis on va haïr l'autre. Donc, on doit choisir. Absolument, on doit choisir. On doit choisir parce que si on ne choisit pas, ben, il y en a qui se trompent. Ah, moi, je suis au milieu. Non, il n'y a pas de milieu. Tu dois choisir un côté. C'est vraiment deux camps. Il faut choisir lequel. Qu'on ne se trompe pas, si on vous dit, ouais, il y a le milieu, il n'y a pas de milieu. C'est noir ou c'est blanc. Il n'y a pas de gris. Donc, c'est à nous de voir qu'est-ce qu'on choisit, qui est-ce qu'on choisit. Est-ce qu'on choisit les ténèbres ou on choisit la lumière? Ah, Daniel qui nous parle ici dans Daniel 2, 22-23, il nous dit, il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force et de ce que tu m'as fait connaître ce qui nous ce que nous t'avons demandé, de ce qui tu nous as révélé le secret du roi. Comme je disais, pour savoir quoi que ce soit, pour pouvoir construire cette maison, pour pouvoir savoir quel terrain défricher, c'est-à-dire quel domaine de ma vie, là où il y a des blocages, pour savoir qui a fait quoi, qui s'est passé, il faut se tourner vers le Seigneur. Absolument vers le Seigneur, sinon on ne pourra pas faire grand-chose. Daniel, il est en train de rendre grâce parce qu'il avait demandé à ce que le Seigneur lui révèle le rêve du roi. Et il l'a fait. Dieu nous dit dans sa parole qu'il ne se cache pas. Quand on le cherche, on le trouve. Il se laisse trouver par celui qui le cherche. C'est lui qui nous a dit ça. C'est lui qui dit ça. Il se laisse trouver par celui qui le cherche. Alors, frères et sœurs, je nous invite vraiment à chercher la face de Dieu. Pourquoi on cherche la face de Dieu? C'est vraiment avoir ses révélations. Pourquoi on doit avoir ces révélations? C'est pour briser. C'est pour creuser, pour poser notre fondation, la vraie fondation, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Mais cette fondation, on doit la poser je dirais pas sur un terrain, mais vu qu'on va creuser, ça va être dans un terrain bien préparé, bien nettoyé, bien viabilisé. Sinon, à tout ce qui est là va pousser, les arbres vont pousser, les broussailles, les bêtes des forêts vont venir. Et qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce que la maison va continuer à monter? Est-ce que la fondation sera... Ah, je crois pas. On ne pourra même pas aller loin. Parce que ça va phagocyter. Toutes ces choses vont phagocyter ce que nous voulions construire. Et finalement, ça va être noyé dans toutes ces choses. Que ce soit les arbres, que ce soit les broussailles, que ce soit les bêtes de la forêt. Tout cela va phagocyter notre construction, notre maison. Et on ne pourra pas aller très loin. Sauf qu'on va abandonner, tout simplement. Matthieu 7, 24-27 nous dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Et n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, Des vents ont soufflé et ont battu contre, ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. Bien-aimés, ça c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parlait, qui enseignait la parole de Dieu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que on a entendu la parole de Dieu. On dira pas qu'on n'a pas entendu. Même si on la met pas en pratique, on a entendu. Mais là, le Seigneur vient nous dire, il faut le mettre en pratique. Il faut mettre en pratique la parole de Dieu. Il faut l'écouter, pas seulement l'écouter, mais agir en fonction. C'est comme ça qu'on va aller selon la volonté de Dieu. C'est pour cela qu'on va aller de l'avant, prospérer à tous égards. Parce que dans la parole de Dieu, il y a tout. D'ailleurs, la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Donc, quand on est en Christ, on doit agir selon Christ qui est en nous. Donc, après avoir fait tout ce qu'on a dit avant, voilà notre fondation est là. On doit construire cette maison sur cette fondation, sur ce roc qui est le Christ. Si on ne bâtit pas cette maison sur lui, ça va assurément tomber. Parce que il vient de nous dire tout ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a la pluie qui va tomber. Il y a les torrents qui vont venir. Tout cela, ce sont des problèmes. Tout cela, ce sont des situations difficiles qui vont nous assaillir. Si notre foi n'est pas solide, si notre foi n'est pas fondée sur Jésus-Christ, ça va nous ébranler, ça va nous éloigner de lui. Mais si on a fondé sur lui la bonne fondation, qui est notre Jésus-Christ, même si la pluie tombe, même si les torrents viennent, même si les vents soufflent, les tornades, les tempêtes. Tout à l'heure, on priait pour les gens qui sont malades. Ça, ce sont des tempêtes, ça, ce sont des torrents qui vont s'abattre sur les enfants de Dieu. L'ennemi va nous attaquer de toutes les manières. Il va user de toutes ses forces pour nous faire tomber, pour nous déstabiliser, pour nous décourager. D'où les pluies, d'où les torrents, d'où les vents qui vont souffler. Mais si notre foi est vraiment solide, si on a bâti sur la bonne fondation, sur la vraie fondation qui est notre Christ, on sait déjà que Christ a déjà vaincu l'ennemi. On sait déjà que la victoire, nous l'avons. Il n'y a rien de très réjouissant de savoir que quand il y a une guerre, tu te prépares pour aller à la guerre, mais on te dit, va juste, il faut juste y aller. La victoire, tu l'as déjà. Ça remonte le moral. Ça encourage les troupes. Quand on vous dit, ah, c'est juste un acte de présence, la victoire est déjà là. Mais ça, c'est formidable d'entendre ces choses. Quand en temps de guerre, l'ennemi t'assaille, mais tu sais pertinemment que tôt ou tard, c'est la victoire. Fin de fin, c'est toi qui vas avoir le dessus. Parce que ce n'est pas toi qui combats, c'est le Christ qui est en toi. C'est Jésus-Christ qui a déjà vaincu l'ennemi qui est en toi, qui va combattre pour toi. Est-ce que c'est la maladie? Jésus a déjà vaincu la maladie. Est-ce que c'est la pauvreté? Il a déjà vaincu. Quand il a dit que tout est accompli, c'est ça qui a été accompli. Il a pris, il a dépouillé l'ennemi. Il a livré un public. Il lui a arraché tout son pouvoir sur nous. Et il nous a donné cette victoire. Bien-aimés, soyons dans la joie parce que aujourd'hui nous avons cette victoire. Si nous bâtissons sur la vraie fondation, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, si nous croyons fermement, si nous tenons bon, la victoire est la nôtre parce qu'il nous l'a déjà donnée. Cette victoire est déjà sûre et certaine. Ce n'est pas quelque chose qu'on nous promet. C'est quelque chose qui a déjà été livré. C'est à nous d'aller chercher cette victoire. Mais tant qu'on n'est pas sur la bonne, on n'a pas construit sur la bonne fondation, tant qu'on n'est pas vraiment ancré en lui, il n'y a rien qui va être fait. Ça va être toujours les mêmes affaires qui vont revenir, les mêmes problèmes qui vont revenir, les mêmes combats qui vont revenir. C'est à nous d'aller chercher cette victoire. C'est à nous de comprendre, de savoir. Si on ne sait pas, Daniel montre l'exemple. Il a prié, il a demandé à Dieu. Éternel, révèle-nous le secret. Dieu a révélé. Si on ne sait pas, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe? C'est à nous aussi d'aller demander. Le Seigneur nous dit, demandez-moi, je te répondrai. Invoque-moi, je te répondrai. Je te révélerai des choses cachées. Il va te dire, il va nous dire par quoi commencer pour débrayer, pour aplanir le terrain. Et puis, creuser, aller dans les profondeurs, enlever tout ce qui ne va pas. Enlever tout ce qui est mauvais pour nous. Et maintenant, mettre cette fondation, bâtir sur cette fondation pour pouvoir aller de l'avant. Donc, je nous exhorte à vraiment à faire cet exercice. Et c'est tout ce que j'avais à partager aujourd'hui. Et je vous le donne dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.